Bonjour à tous. Bienvenue sur l'émission Tout est politique, le carnet de bord de la bataille culturelle sur Radio Courtoisie. En ce vendredi 1er mai, nous vous souhaitons une bonne journée chômée. Nous sommes ensemble de midi à 13h30 pour une émission consacrée au miracle Milei, le président argentin au pouvoir depuis 2 ans et demi. Chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en écrivant au courriel courtoisie@rc.fr ou téléphoner au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Quand une rockstar maniant la tronçonneuse défie l'ordre établi, la caste mondialiste tremble. Chacun de nous, chers auditeurs, aura deviné de qui je parle, de ce cher Milei élu depuis 2022 président de l'Argentine à la surprise de l'establishment mondial. Une dégaine de rockstar, les cheveux hirsutes, un sourire malicieux et complice. Voilà que l'Argentine se voit dirigée depuis 3 ans bientôt par un personnage pour le moins fantasque. Et plus que cela, l'originalité de la silhouette s'accompagne d'un anticonformisme doctrinal. Oui, Milei se dit libéral, plus que cela même, il s'affiche paléo-libertarien, adepte de l'anarcho-capitalisme. Sur un continent, l'Amérique du Sud, gangrénée par le marxisme, le péronisme et autres guérillas sanglantes, voir un adversaire de l'État accéder au pouvoir sonne comme une révolution. Milei mène une offensive contre l'ordre établi, contre l'État, les institutions internationales pour le moins inefficaces, les Davos et G7 et autres grands de ce monde qui s'autogratulent, végètent sur le dos des autres, bref, une caste mondialiste qui dépense l'argent des peuples pour le bien de ces mêmes peuples. Pourtant, Milei n'est pas élu par hasard. Les 70 ans d'étatisme et de corruption endémique en Argentine font pour ainsi dire la preuve de leur échec en plongeant le pays dans la ruine et la misère. La contre-bataille culturelle libérale s'engage, je dirais même la contre-révolution morale pour citer mon invité, et ce jusqu'à la victoire de Milei. Milei hérite d'une Argentine endettée, rongée par une inflation de 200% par an, une dette publique supérieure à 80% du PIB, 40% de pauvreté, le pays est en ruine. Il renverse donc la table en menant une politique libérale dont la responsabilité individuelle est le maître mot. Libertad, clame-t-il, afuera, enchaîne-t-il. C'est le méga décret, désendettement, liberté contractuelle, flexibilité du marché du travail et de l'immobilier, démantèlement des monopoles d'État, bref, une vague libérale irrigue le pays en quelques mois. En France, les critiques fusent, Milei est étiqueté populiste, fasciste, démago, tout y passe. Il est vrai, notre pays gangréné par la dépense publique, le fiscalisme et le jacobinisme voient d'un très mauvais œil ce partisan du moindre État. Pourtant, les résultats sont là, en 18 mois, spectaculaires. Le réel fait mal à la bureaucratie. Explosion de l'offre locative et baisse des prix des loyers. Une inflation qui baisse de 200% à 30% annuel. Une croissance de 4% en 2025. Un taux de pauvreté qui passe de 40 à 30%. Et enfin, un chômage de 7 à 5,4%. Étrangement, aujourd'hui, les pourfendeurs d'hier se taisent. Le FMI, mauvaise langue d'alors, est silencieux. Quant à nos élites françaises, surtout lors des manifestations du 1er mai, elles défendent toujours, devinez quoi, eh bien toujours plus d'égalité, toujours plus de redistribution. À quand un Milei français? Eh bien, pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Michael Miguer. J'espère que j'écorche pas votre nom.
C'était parfait.
Bonjour. Donc, ancien élu local. Bonjour Michael, merci de votre présence. Vous exercez une activité de conseil en relations publiques, vous êtes président de l'Institut pour le Progrès, fondateur de France Business Leader, un réseau de business clubs d'entrepreneurs. Vous avez écrit récemment le livre « La révolution Milei, l'avènement d'un nouveau libéralisme » aux éditions Valeurs Ajoutées, « L'économiste président qui secoue la planète » que je montre à nos auditeurs. Et enfin, Monsieur Romain Dominati qui est avec nous par visio. Bonjour monsieur, merci de votre présence. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, head of media chez TBSO, créateur et dirigeant du mouvement milléiste français. Vous pouvez le suivre sur Les Milléistes Français sur X ou sur d'autres canaux, j'imagine, vous nous en parlerez. Messieurs, bonjour, merci de votre présence et avant de commencer, 3 sons.
We're
Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés.
Voilà, merci pour ces sons qui étaient une petite anecdote, on va dire dogmatique, sur le sujet qui nous concerne. Alors, pour commencer, messieurs, comment est-ce qu'on prononce Milei? Ça, c'est intéressant parce que la prononciation n'est jamais la même selon les médias. Michael ou Romain?
Alors, en espagnol d'Argentine, on prononce Javier Milei. Son nom est d'origine italienne, comme énormément d'Argentins est d'origine italienne. Donc, si on la prononce à l'italienne, ce serait plus Milei, mais étant donné qu'il est bel et bien argentin, c'est Milei.
Milei. Bon. Et deuxième question avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 1er mai. Est-ce qu'il y a un 1er mai en Argentine, une fête chômée?
Oui.
Oui.
Mais oui.
Qui est du même ordre qu'aujourd'hui?
Il y a beaucoup de jours fériés en Argentine. Une année sous Cristina Kirchner, ils ont même obtenu de rentrer dans le Guinness des records pour avoir battu le record du nombre de jours chômés pendant l'année.
D'accord. Parce que j'ai appris ce matin. En arrivant, qu'on demandait encore des jours chômés en France. Apparemment, c'est les syndicats ou un certain parti politique, bref. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de Milei? Parce que Milei, il est apparu il y a 2 ans devant les écrans. Peu de personnes le connaissaient, peut-être quelques personnes ici en France qui étaient averties, et évidemment en Argentine. Mais d'où il vient? Comment il est arrivé là? Quelle est son histoire?
Milei, c'est un économiste, professeur, qui donnait des cours à l'université, et puis qui un jour s'est rendu compte que en fait ce qu'il racontait en ses cours était faux, qu'il avait fait fausse route, et il a découvert l'école autrichienne d'économie, et il s'est mis à se plonger dans cette doctrine, à comprendre que c'était la meilleure voie pour redresser un pays. Surtout le sien qui était gangréné par le socialisme. Et donc, il s'est lancé dans la bataille culturelle en intervenant de plus en plus dans les médias. Et là, il s'est révélé être une véritable bête de scène, puisqu'il a été invité sur tous les plateaux, il a eu ses propres émissions radio, télé, il a même fait des pièces de théâtre, des concerts. Et donc, pendant 10 ans, il a mené cette bataille culturelle en Argentine, jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, le pays aille tellement mal et l'offre politique étant tellement déconnectée de la réalité qu'il a décidé de se présenter. Et donc, c'est pour ça qu'en en fait, il était déjà un personnage médiatique très connu quand il a été élu député la première fois, ce qui fait qu'après un mandat de 2 ans en tant que député, il a pu se présenter à l'élection présidentielle avec déjà une certaine notoriété. Et là, étant donné que le pays allait toucher le fond pour la 20e fois de son histoire, les Argentins lui ont fait confiance.
Alors, sachant que vous parlez de la doctrine, dans le livre de Philippe Bagus que je présenterai aux auditeurs tout à l'heure, mais également dans le livre de Michael, on dit qu'il a évolué en plan doctrinal. C'est-à-dire qu'au début, il était plutôt... Alors, on va faire des définitions pour expliquer aux auditeurs, c'est important la pédagogie, il était plutôt minarchiste ou pour un état régalien classique, et après, il a évolué vers plutôt l'anarcho-libéralisme. Est-ce que je me trompe, Michael?
Disons qu'il était plutôt dans le libéralisme classique, qui croyait les enseignements de tout ce qu'on enseigne dans la théorie économique, c'est-à-dire l'équilibre, notamment... l'équilibre général, etc. Et puis, il a découvert Rothbard, et il s'est aperçu qu'en fait, les hypothèses qui étaient données pour expliquer l'économie, en fait, étaient fausses. Par exemple, pour ne citer qu'une seule chose, le fait que l'entrepreneur n'existait pas du tout dans la théorie économique, et que en fait, quand on contestait cela auprès des théoriciens classiques actuels, ils disaient oui, mais en fait, l'entrepreneur, il est implicite dans les quantités de matériaux qu'il peut y avoir, etc. Puis il s'est aperçu qu'en fait, bah non, il fallait peut-être expliquer autre chose. Et du coup, il s'est plongé dans toute cette école autrichienne, donc Rothbard, notamment, Von Mises, et puis après, il l'a enrichi aussi avec des auteurs hispanophones comme Jesús Huerta de Soto ou Alberto Benegas Lin Jr., qui ont placé l'entrepreneur au cœur de l'économie, qui ont surtout démontré l'impossibilité, comme l'avait déjà fait Hayek en son temps, de la planification, mais même des systèmes qui donnent une place un petit peu plus importante à la redistribution, à l'État-providence, et que bah, lui, vivant depuis 40-50 années de déclinisme argentin, voyait dans ces idées-là la plus forte alternative, la plus puissante explication pour sortir du déclin argentin. Et ça l'a vraiment converti, et puis depuis ce jour-là, il s'est dit, mais en fait, ce sont les idées qui sont les plus pertinentes pour décrire l'économie, et ce sont celles qu'il faut mettre en avant, d'où la révolution culturelle que mentionnait Romain, pour que son pays puisse s'en sortir.
Est-ce que vous diriez qu'il est anarcho-capitaliste ?
Alors, il y a beaucoup de termes qui sont employés. Dans un podcast, on lui disait, en fait, il y a ça, et il y a aussi le paléo-libertarianisme.
Oui, absolument, que j'ai lu dans votre livre.
Voilà. Et après, lui-même a dit dans un podcast, mais au-delà de ça, les étiquettes peuvent un petit peu enfermer, donc c'est ce sur quoi il se reconnaît plus, mais au-delà de ça, il a aussi conscience qu'il ne faut pas s'enfermer dans des étiquettes et il faut donner des définitions assez larges pour que les gens puissent comprendre.
Vous avez raison, on va pas rester sur les étiquettes, mais je vais rester un tout petit peu sur ces points de doctrine, parce que c'est important, oui. Surtout en France, où déjà le mot libéral est un gros mot, nous sommes d'accord, et où on met tout ce qu'on veut derrière le mot libéral, et même quelquefois à tort. Alors, si on sort des étiquettes, vous avez raison, est-ce qu'il est pour la disparition de l'État dans l'absolu, ou pas, Mileille ?
Romain.
Oui, dans l'absolu, oui, il l'est, mais comme disait Mickaël, il reste avant tout pragmatique, c'est-à-dire que c'est bien beau de parler en théorie ou de réfléchir à une utopie. En attendant, on joue avec les cartes avec lesquelles tout le monde joue. C'est-à-dire qu'il faut bien s'inscrire dans le monde réel. Donc, il le dit très clairement, il est anarcho-capitaliste par conviction, mais il est minarchiste, comme vous avez dit, par pragmatisme. Ça veut dire que minarchiste, c'est réduire l'État à son strict minimum, donc ses fonctions régaliennes principales, savoir la justice et la sécurité intérieure et extérieure, et rien d'autre. Voilà. Donc, après, si on va plus... Oui, voilà, si on va plus loin et qu'on veut pousser la logique jusqu'au bout, Milei est un anarcho-capitaliste convaincu, c'est-à-dire que oui, il est contre l'existence même d'un État coercitif. Attention, ça veut bien dire qu'il y a toujours une organisation de la société, il y a toujours un moyen qui fait que les gens puissent vivre ensemble. La grande différence, c'est est-ce que c'est obligatoire ou non, est-ce que c'est coercitif, est-ce que c'est violent ou pas. Mais bon, là, on va peut-être un peu loin. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Milei, il est rationnel. Il veut juste réduire la sphère d'action de l'État pour le ramener à là où il est essentiel en ce moment et rien d'autre, quoi. C'est tout.
Alors, trois autres points importants, parce qu'on va justement continuer à sortir des étiquettes, mais trois autres points importants qui, à mon avis, méritent d'être éclaircis. Qu'en est-il de ses positions au regard sociétal ? C'est-à-dire... le mariage pour tous, si on prend un exemple français, mais ça peut être d'autres choses, l'avortement, etc. Quel est son point de vue là-dessus ?
Il est libéral conservateur, comme l'était d'ailleurs Hayek, c'est très important, parce que très souvent, on oppose le libéralisme avec des idées progressistes et qui seraient, par définition, du coup, les idées libérales qui seraient contre le conservatisme. En fait, Hayek avait théorisé que lorsqu'il y a des traditions qui existent, c'est qu'elles sont nées des relations un petit peu spontanées des êtres et des civilisations et des sociétés à travers les siècles, et donc qu'elles ont des raisons d'être, par opposition à un système planificateur type socialiste, collectiviste, communiste, qui va vous dire, non, maintenant tout ce qu'on fait les hommes, on le supprime, et puis on vous dit comment vous devez... vivre votre vie, quelles sont vos croyances, vous vous souvenez de l'homo sovieticus qui devait effacer le christianisme, enfin l'orthodoxie en Russie, et de ce fait, là-dessus, les libéraux et libertariens sont en fait très respectueux des traditions. Et donc, ils disent, voilà, chacun fait ce qu'il veut, et ils ne vont pas pousser un agenda qui, justement, veut changer les traditions. Donc, ça en fait un conservateur. Mais il n'est pas pour que tout le monde puisse faire n'importe quoi et qu'on évolue vers la destruction du christianisme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment aussi avec le livre de Philippe Bagus, entre la tradition chrétienne et les idées libérales-libertariennes, et qui arrivent à la conclusion qu'au fond, Dieu est libertarien,
oui,
puisque Dieu vous donne les moyens de vous en sortir, et après c'est à vous de le faire, et il n'y a pas une autorité coercitive, oui, comme le mentionnait Romain, qui va vous inciter à faire ceci ou cela par la force, et vous guider. Chacun est maître de son destin, on conserve les traditions, mais il n'y a pas une contrainte totalitaire très forte dans un sens ou dans l'autre. Donc ça veut dire que, par exemple, tout ce qui est wokiste, il était très engagé contre le wokisme, justement la promotion de nouvelles idées, tout ce qui était transgenre, etc. Et après, sur l'avortement, il a une position qui est de dire oui, chacun doit avoir la maîtrise de la propriété de son corps. C'est valable d'ailleurs dans la vie sexuelle, amoureuse, mais comme c'est valable dans la vie du travail. Donc c'est pour ça qu'il faut que chacun puisse bénéficier des fruits de son travail et pas tout reverser à l'État. Mais là-dessus, quand on lui dit oui, mais d'accord, mais donc le corps de la femme pour l'avortement, il dit oui, je suis d'accord, mais sauf que là, c'est le corps de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre, et donc c'est pour ça qu'il est idéologiquement contre. Mais après, il ne l'encourage pas, toutes les politiques d'avortement, mais il ne les a pas non plus interdites, parce que bah, là aussi, comme dit Romain, il est pragmatique.
Donc en fait, il maintient la société telle qu'elle est sans déconstruire. C'est si j'ai bien compris.
Oui.
Oui, c'est ça. Et alors, justement, à propos de programme, Michael, vous dites la page 13 de votre livre, je voudrais avoir votre précision. En deuxième lieu, parce qu'il a consacré toute sa campagne à parler d'économie au point d'en faire le débat central de l'élection présidentielle. Donc vous dites par là qu'il a peu abordé les éléments sur donc, le sociétal dont on parlait, sur le patriotisme, sur la problématique des alliances avec les autres pays, les États-Unis, le problème du dollar, etc. Mais c'est concentré sur l'économie en Argentine ?
Oui, c'est ce qui est très intéressant, et Romain pourra compléter puisqu'il était aux premières loges en étant résident à Buenos Aires pendant un petit moment. L'idée, c'est que quand vous avez un danger, et en l'occurrence le danger numéro un, et c'est aussi pour ça que je trouve que le parallèle avec la révolution de Javier Milei est très intéressante pour nous Français de 2026, et encore plus en 2027, quand vous avez, on peut toujours au fond avoir des désaccords sur tous les sujets. On voit à longueur de plateaux de télévision, d'émissions de radio, de journaux, de podcasts, etc. Mais quand il y a une priorité pour le pays, bah, faut se concentrer sur la priorité. La grande priorité pour l'Argentine était les problèmes économiques, et donc il fallait pouvoir les traiter, et après vous pouvez toujours vous opposer, vous pouvez toujours débattre de mille choses, et les partis politiques, les émissions de télé sont faits pour ça, mais à un moment donné, il faut aussi empêcher un État de faire faillite, il faut empêcher que les gens continuent de s'appauvrir, parce que au-delà des chiffres, ce sont des drames humains terribles. On faisait une réunion justement avec Romain il y a quelques temps sur la cause des actifs et de la jeunesse. Au-delà des chiffres, c'est des suicides, c'est des angoisses, c'est des antidépresseurs, c'est la démoralisation des personnes, c'est beaucoup de choses qu'on peut quantifier, le recours aux addictions, etc. Et que, en étant un petit peu adulte et non idéologue, il a considéré qu'il fallait avant tout traiter l'économie, sortir son pays d'un déclin, le remettre évidemment d'aplomb et remettre, au fond, remobiliser une jeunesse pour qu'elle puisse se remettre à créer. Et après, une fois que vous faites ça, c'est la société qui s'empare de ces débats, et puis quand elle est positive et qu'elle n'est pas en train de s'autodétruire, elle peut avancer beaucoup plus fortement.
Romain, vous voulez dire un mot ?
Oui, je pense que Michael a pointé l'essentiel. En fait, le problème numéro un, même pour aller dans, encore plus en précision que simplement l'économie, c'était l'inflation. L'inflation en Argentine, c'est vraiment dramatique depuis de longues années. Effectivement, j'ai vécu là-bas longuement, et donc je me suis rendu compte, en fait, en étant sur place, que c'est très dur pour nous, Français, Européens même, de se rendre compte ce que c'est que de vivre avec l'inflation. Parce que ça reste très théorique. On sait que voilà, la grande inflation en Allemagne, le Zimbabwe, des choses comme ça. Mais on ne se rend pas compte ce que ça veut dire au quotidien. En fait, c'est une gymnastique intellectuelle qui est très fatigante, qui fait perdre énormément d'énergie, qui fait que les ressources sont très mal allouées dans l'économie. Il y a plein de décisions qui ne sont pas les meilleures, en fait, à cause de l'inflation. on peut pas faire d'emprunt, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'épargne. C'est vraiment un poison, vraiment. Et elle ne faisait que d'accélérer, et les Argentins avaient déjà vu ce scénario arriver plusieurs fois, ils connaissaient bien la musique, hein. Ils savaient très bien qu'en fait, systématiquement, l'État dépensait n'importe comment pour faire des cadeaux à tout le monde, acheter sa popularité et en fait imprimer des billets, ce qui menait à une inflation de plus en plus élevée, ce qui menait ensuite à une faillite, un effondrement total du pays et un taux de pauvreté très élevé. Donc les Argentins connaissaient ce modèle-là, ils l'avaient déjà vécu, il y a eu la fameuse crise de 2001. Et donc, voyant que la machine s'accélérait et que l'inflation devenait de plus en plus incontrôlable, ils se sont bien rendus compte que, il fallait une solution, radicale. Et il y avait effectivement un gars qui criait à la télé depuis des années que lui, il avait la solution et qu'il allait résoudre le problème de l'inflation. Donc ça a été le message le plus important pour eux, parce que enfin quelqu'un qui soit capable de mettre fin à l'inflation, c'était une promesse qu'il fallait absolument tenter. Et effectivement, je suppose l'aborder, mais en tout cas, cette bataille frontale contre l'inflation a porté ses fruits, puisqu'elle a déjà été divisée par 10 et qu'elle va naturellement se réduire jusqu'à, je l'espère, se résorber d'ici quelques mois, quelques années.
Alors justement, si on parle un peu chiffres, est-ce que vous pourriez, j'en ai un petit peu parlé dans mon édito, mais me donner les chiffres les plus objectifs et les plus essentiels en économie et surtout qui soient compréhensibles pour tout le monde avant l'arrivée de Milei. Et aujourd'hui, si on peut faire on va dire un point d'étape, puisque ça fait 2 ans et demi maintenant, c'est ça? Un point d'étape.
Alors, le premier chiffre qui est le plus emblématique, c'est le déficit zéro en un mois. C'est-à-dire que l'Argentine était, comme la France d'ailleurs, en déficit chronique, budgétairement. Et donc, c'est ce qui était la cause ce qui était causé par de nombreuses dépenses publiques et donc la cause d'une inflation très forte. Il est arrivé, il a dit en un mois, alors qu'il n'avait pas du tout de majorité, puisqu'il était outsider total des institutions et des partis politiques. Il arrive en un mois, il dit non, non, déficit zéro. Donc il use de tous les outils institutionnels dont un peut disposer un président. Il met au pas un petit peu tous les députés, mais parce que il avait l'opinion publique avec lui, puisqu'il venait de remporter l'élection présidentielle.
L'état
Et
de grâce.
l'état de grâce, il l'a mis tout de suite à profit en un mois. Et il a prévenu, donc c'était la tronçonneuse, notamment dans la bureaucratie, dans beaucoup de dépenses qui n'étaient pas forcément justifiées. Et il réduit donc il passe les dépenses publiques sur le PIB de 40%. Pour rappel, en France, nous sommes à 57%. Et il fait de 40% à 30%. Et là, le PIB se contracte un petit peu. Donc il était déjà négatif, mais donc il continue à se contracter de 1%, ce qui n'est pas énorme en fait. Quand vous baissez 10 points de dépenses publiques et que vous avez un recul de 1 point, c'est que vous avez, même si la tronçonneuse est un outil un petit peu grossier, c'est que vous avez quand même été assez chirurgical. Il met en œuvre tout un tas donc de dérégulations, il casse des monopoles, il déréglemente à tout va, etc. Il y a une petite période donc d'ajustement, mais dont il avait conscience et qu'il avait prévenu, mais qui, au lieu de durer un an et demi, comme il l'avait estimé, ne dure que 8 mois. Et après 8 mois, on retrouve de 3,5 à 5% de croissance. Donc ça, c'est très fort. Donc le taux de pauvreté qui était aux alentours de 45% quand il accède à la présidence augmente jusqu'à 51%, ce qui est normal puisque quand vous coupez le robinet, il y a des gens qui du coup se retrouvent un petit peu sur le carreau, même si l'économie dans laquelle il participait n'était pas productive et donc c'est normal de faire les ajustements. Néanmoins, il y a quand même des gens qui se retrouvent sur le carreau. Mais comme il fait tout de suite, ça recrée aussi des emplois dans le secteur privé, ça peut recréer des richesses. Et parallèlement, il sape dans la bureaucratie, mais sur la pauvreté, il essaye de conserver qu'il y ait les aides, mais plutôt qu'il transite par des administrations, aille directement aux plus démunis ou aux personnes en situation de handicap pour pouvoir les aider. Et donc le taux de pauvreté qui augmente un petit peu finit par descendre assez rapidement. Et aujourd'hui, il est aux alentours de 28%. Donc il est passé de 45 à 28%. Les comptes publics ont été rétablie, il n'y a plus de déficit, il y a même un surplus fiscal.
J'ai vu ça, au bout de 6 mois, je crois,
voilà.
Décision budgétaire.
Et parallèlement aussi sur le déficit extérieur, puisque bah, quand vous avez une monnaie qui est un petit peu plus maîtrisée, que vous dépensez moins, que vous pouvez être un tout petit peu plus compétitif, et qu'il n'y a pas tous les problèmes pour les entrepreneurs et les industriels argentins que mentionnait Romain avec les problèmes d'inflation, et bah, du coup, l'économie se rétablit et du coup, se gère un petit peu mieux de façon interne. Et donc, il n'y a plus non plus de déficit extérieur. Et donc, ce sont quatre indicateurs clés qui ont montré que, quoi qu'il arrive maintenant, le milisme, personne ne pourra dire que ça n'a pas marché, puisqu'il a pris une situation, il a appliqué une thérapie de choc, et la thérapie de choc a marché. Alors, évidemment, on opposera que 28% de pauvres, c'est quand même
important. Oui, mais il faut voir d'où on vient.
Mais il faut voir d'où on vient, oui. Et donc, c'est très encourageant.
Absolument. Un autre chiffre, Romain ?
Oui, moi, il y a un chiffre que je mets toujours en avant, parce que je trouve que c'est le plus touchant. C'est que grâce à sa politique, il y a 2,5 millions d'enfants qui sont sortis de la pauvreté. Donc voilà, comment peut-on être contre une chose pareille ? 2,5 millions d'enfants qui sortent de la pauvreté en si peu de temps, c'est tellement incroyable que l'UNICEF l'a félicité. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a des impacts sur le monde réel, très concrets, sur des enfants qui vraiment avaient du mal à manger, quoi, tout simplement. Et peut-être aussi le chiffre le plus global, celui de la croissance, puisque la croissance argentine reprend à plein régime. Donc, ça a fini l'année aux alentours de 4,5-5%. Ça en fait la deuxième économie la plus dynamique du monde derrière l'Inde. Et c'est bien parti pour suivre cette tendance sur 2026, puisque il y a des records d'exportation qui sont battus chaque mois. Et il y a énormément d'intentions d'investissements étrangers massifs qui arrivent en Argentine. Donc, tout cela va renforcer encore l'économie qui est en pleine mutation, en fait. Hein. Il y a une espèce de chaos aujourd'hui dans le tissu productif argentin parce que le pays est en train de se remettre à l'endroit. Donc, il y a des gagnants, il y a des perdants. Ça fait beaucoup de changements, de mouvements. Mais une fois que cette période d'adaptation sera passée, eh bien, je pense que la croissance va être encore plus forte.
Et d'ailleurs, juste pour comparer, l'année dernière, donc là vous avez vu aujourd'hui les croissances, enfin, pardon, les perspectives de croissance pour cette année en France seront de 0%.
Oui.
L'année dernière, elles étaient à 0,1%. Et quand vous finissez l'année, donc du coup entre 3,5% et 5%, il faut comprendre que ça veut dire que la croissance argentine était 35 à 50 fois supérieure à celle de la France.
Oui, c'est vrai.
Et que nous, on a des gens sur les plateaux de télé qui disent oh non, Milei, ça ne marche pas, etc. 30 à 50 fois plus, mec. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? À un moment donné, on n'est plus, du simple au double. Et donc, il faut quand même un petit peu s'incliner quand il y a des chiffres qui sont aussi démonstratifs.
Ça devient de la mauvaise foi.
C'est de la mauvaise foi, clairement.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans une émission en direct sur Radio Courtoisie sur le thème « La révolution Milei » avec Michael Miguer qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolution Milei, l'avènement d'un nouveau libéralisme aux éditions Valeurs Ajoutées Éditions ». Et nous sommes également avec Romain Dominati, qui est dirigeant du mouvement méléiste français. Merci, messieurs. Donc, je reprends sur les résultats. Alors, il y avait Michael, dans votre livre, sur la liberté contractuelle. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que vous sous-entendiez qu'avant, il n'y avait pas de liberté contractuelle en Argentine. C'est-à-dire que vous dites que la liberté contractuelle, maintenant, est supérieure à la loi. C'est bien ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée pour comprendre que les lois sont très... Quand elles sont trop restrictives, trop établies, et laissent peu de place à des libres contrats entre les individus, bah, du coup, les gens sont obligés de faire ce que la loi veut et pas ce que forcément eux ont envie de faire et ont envie de contracter et de pouvoir faire des échanges qui sont pertinents pour, par exemple, un acheteur et un vendeur. Et donc, vous avez de la perte parce que si je veux vous louer mon appartement, admettons, pendant 2 mois et que, ah bah non, il faut le louer 6 mois, bah du coup, moi, en tant que... loueur, je pourrais pas vous louer, donc pendant 2 mois je n'ai pas de rentrée, et vous, si vous cherchez juste pour 2 mois, vous devriez payer 6 mois. Donc on voit bien qu'en fait plus il y a de rigidité, moins les gens peuvent échanger et plus ça leur coûte aux uns et aux autres.
Ce qui se passe à Paris.
C'est ce qui se passe à Paris. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le marché immobilier est un excellent exemple, puisqu'à Buenos Aires, quand il a dérégulé, eh ben ça a fait chuter les prix. Et il y a du coup plus de gens qui ont mis leurs biens sur le marché, etc.
Et ça a augmenté l'offre locative, ça a augmenté moins de gens dehors, etc.
C'est ça.
Donc c'est vertueux.
Et donc c'est vertueux. Et donc c'est pour ça, d'ailleurs, on a eu une campagne municipale à Paris. Personne proposait cela.
Sarah
Knafo un petit peu, c'est vrai, mais dans les débats on l'entendait très peu par ailleurs, donc en fait c'est des idées qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus on peut contracter librement, plus on peut aller vers le sens des échanges, mieux c'est optimal pour tout le monde et les gens gagnent en pouvoir d'achat.
Alors moi j'ai entendu ce matin, je sais pas si c'est vrai, qu'il y avait une idée qui était de taxer les propriétaires de logements à Paris qui n'avaient pas loué. Donc, les propriétaires de logements vides. Donc, on continue sur la lancée. Mais si vous voulez, si on fait un parallèle avec la France, on n'aime pas les idées libérales. Moi-même, j'ai fait la campagne de Madelin, ça n'a pas été un franc succès, qui était le seul candidat libéral depuis 50 ans, il me semble, de mémoire. Hein. Thatcher, elle a toujours été ridiculisée en France, ne serait-ce que par des chansons en disant que c'était une affreuse bonne femme qui faisait du tort aux pauvres.
À part peut-être Madame Thatcher.
Voilà, exactement. est-ce qu'à part Milei aujourd'hui, est-ce qu'il y a un gouvernement dit libéral, libertarien, je ne sais, mais en tout état de cause, qui a une vraie politique minarchiste, on va dire ça comme ça, qui a déjà réussi dans le monde avant Milei?
Je laisserai Romain compléter, quand vous regardez Dubaï, quand vous regardez Singapour, quand vous regardez la Suisse, quand vous regardez Monaco, c'est la même logique, c'est-à-dire un État qui ne va pas prendre les richesses, qui du coup attire des investisseurs, qui du coup attire des entrepreneurs. Même aux États-Unis, il y a le fameux Delaware, même à Londres, il y a la fameuse City qui sont exemptées de taxes. En fait, à chaque fois qu'il y a des grandes puissances, elles ont besoin d'une sécurité financière, juridique et d'un État qui n'est pas aux abois et qui n'est pas, pour reprendre du coup la formule de Margaret Thatcher, qui finit, vous savez, qui dit le socialisme, on finit toujours par manquer de l'argent des autres. Et là, c'est exactement ça, ce que vous citiez sur le taxé, les résidences, etc. Ils sont tellement avides et drogués à la dépense publique qu'ils ne savent plus comment la dépenser et qu'ils ne savent plus du coup comment la récupérer. Et donc, ils essayent toujours de prendre là où il y en a, c'est-à-dire dans les poches des citoyens qui l'ont gagné par la force de leur travail et qui veulent d'autant plus taxer le secteur privé, qui est pourtant le seul qui produit des richesses.
Mais c'est vrai.
Tous les pays qui ont de la sécurité financière et juridique pour protéger les entrepreneurs et les investisseurs vivent beaucoup mieux. On ne voit pas un afflux massif de gens qui nous disent on quitte la Chine qui pourtant est communiste mais à 30-35% de dépenses publiques. On ne voit pas de gens qui quittent Dubaï ou la Suisse ou Monaco pour venir habiter en Île-de-France en disant « Ah bah chez vous, on vit mieux ». Donc à un moment donné, les choses sont quand même assez démonstratives, même si c'est vrai que pour une certaine élite bien pensante, une élite médiatique, les idées sur le nom du libéralisme ne marchent pas. Mais on a fait d'ailleurs un sondage à l'occasion d'une nuit de la liberté qu'on a fait avec Romain il y a quelques semaines, justement sur les Français et les idées libérales, pas le français et le libéralisme, les Français et les idées libérales. Et on s'aperçoit qu'en fait, une majorité de Français est pour le fait qu'il y ait un déficit zéro, et une majorité de Français pour le fait qu'on baisse les retraites, qu'on baisse le montant des retraites, qu'il est normal que les actifs gagnent mieux que les retraites, etc., etc. Donc il y a en fait sur les idées, sur les solutions, les Français sont d'accord. Et après, c'est vrai que le mot libéralisme, vous avez cité le score de Madelin qui est resté un petit peu dans des mémoires,
moins 3 je crois,
voilà, mais qui était aussi utilisé de façon très politicienne par certains. Néanmoins, en 2017, pourquoi Macron arrive devant Fillon au premier tour? C'est parce qu'il incarne un libéralisme, qu'il a su parler à des entrepreneurs, qu'il a su donner quelques inflexions qui leur parlaient. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que Macron avait un programme libéral. Et sur certains aspects, d'ailleurs, il l'a fait un petit peu avec la baisse de certains impôts, etc. Donc, finalement, il y a quand même un président qui s'est fait lire, même s'il a fait l'inverse, sur quelques accents libéraux au détriment des autres.
Alors, avant de vous donner la parole, Romain, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit à propos du mot libéral. Je pense aussi que nous sommes dans une guerre sémantique. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, et on en parle à propos du gramschisme, si on peut appeler ça comme ça, qui de droite ou libéral, qui a conduit à la victoire du Milei, où vous en parlez, je crois, et aussi Philippe Bagus dans son livre, où il dit que non seulement il y a une guerre culturelle, mais il y a une guerre sémantique pour essayer de faire de la pédagogie sur la définition des mots. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Romain ?
Si, tout à fait. Après, à nouveau, il faut être pragmatique. Peut-être que si le mot libéral est trop teinté en France, il faut
prendre un autre
l'abandonner
mot.
Et parler uniquement de liberté.
Peut-être.
Parce que pour le coup, la liberté, tout le monde y est attaché, que ce soit la liberté individuelle, liberté économique, liberté de la presse, liberté d'opinion. Les Français sont attachés à ces principes-là. C'est quand même sur le fronton de tous nos bâtiments publics et ce n'est pas pour rien. Les Français sont un peuple qui a une histoire liée à la liberté. D'ailleurs, franc, port franc, etc. Franc, ça veut dire libre. Donc, la bonne nouvelle, pour reprendre un peu ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est que dès qu'on va vers un peu plus de liberté, eh bien, on vit mieux. Il y a plus de prospérité. Les gens vivent dans un meilleur cadre et sont plus heureux. Donc, on n'est pas obligé de tomber non plus dans effectivement le milléisme ou le minarchisme. Il suffit d'aller vers plus de liberté pour que ça aille mieux. Et il se trouve que la France, on est à l'extrême socialisme. C'est-à-dire qu'on est le pays qui a le plus de dépenses publiques au monde. Donc, on est le pays déjà le plus socialiste au monde. Donc, on ne peut faire que mieux. Donc, chaque degré qui va aller vers plus de liberté améliorera le score. Et ça, pour le coup, vous demandiez des exemples. En fait, c'est l'intégralité de l'histoire humaine dans tous les pays, toutes les cultures, tous les continents, dans tous les temps. À chaque fois que les pays sont plus libres, ils vivent mieux que les pays moins libres.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable.
Je trouve que c'est plutôt optimiste comme façon de voir, puisque on peut faire que mieux, quoi.
Je vais me faire l'avocat du diable. Vous savez que les défenseurs de la Chine disent qu'il y a moins de liberté politique, et pourtant, économiquement, ça marche très bien.
Oui, mais il y a plus de liberté économique.
Oui, voilà.
Mais il n'y a pas de liberté politique.
Il n'y a pas de liberté.
Ça risque de leur tomber dessus un moment ou un autre, parce que une structure politique, elle peut tenir qu'un temps si elle est bâtie sur des mensonges. Et le manque de liberté politique risque de se retourner contre eux. En attendant, Mickaël l'a déjà dit, ils sont à 35% de dépenses publiques dans le PIB. Donc la liberté économique, c'est incroyable de penser ça, mais elle est supérieure. Et ensuite, ça marche bien, oui. Enfin, en attendant, aujourd'hui, je veux dire, un Chinois moyen, son pouvoir d'achat, il reste encore 4 ou 5 fois moindre que dans les pays occidentaux. Donc, ils ont un chemin à parcourir.
Alors, pour rebondir sur la sémantique et notamment sur la pédagogie, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, Mickaël, sur la dépense. Et page 84 de votre livre, donc, que j'incite à acheter, tous les auditeurs, page 84, ça me fait penser à la pédagogie en économie en seconde ou en terminale. Vous dites à propos de la dépense, c'est du bon sens. Dépenser son propre argent pour soi-même, efficacité maximale. Dépenser son propre argent pour les autres, efficacité élevée. Dépenser l'argent des autres pour soi-même, gaspillage modéré. Dépenser l'argent des autres pour les autres, gaspillage maximal. Essence même de la bureaucratie étatique. Alors quand on lit ça, on se dit, bah oui, c'est pareil, évident. C'est évident, et pour autant, ça continue.
C'est la définition de Milton Friedman que aime beaucoup citer Javier Milei. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que dans les principes de liberté vont très très rapidement les principes de propriété et les principes de responsabilité. Or, pourquoi ça déconne totalement en France, pour reprendre le terme de l'ancien président de la Cour des comptes socialiste Moscovici, qui disait que les dépenses de l'État étaient en roue libre, ce qui est quand même un terme très très fort, c'est parce que on dépense l'argent des autres et personne n'est responsable. Absolument personne n'est responsable. Vous avez des politiques qui s'expriment par éléments de langage, des journalistes qui leur posent des questions sur des sujets subalternes, personne n'est responsable du gaspillage de l'argent public. Alors, il faut saluer qu'il y a des initiatives. Vous avez parlé tout à l'heure de Sarah Knafo qui a mené de nombreux combats là-dessus. On peut penser aussi à David Lisnard qui, d'ailleurs, m'a fait l'amitié de préfacer.
Alors, c'est un libéral, David Lisnard, je fais une parenthèse.
Ah oui, c'est un libéral. Il aime.
C'est un minarchiste.
Il est depuis très longtemps libéral. Il aime beaucoup Javier Milei. On en avait parlé un petit peu en marge une fois dans une discussion, et c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à lui pour la préface. Et puis, je pense aussi à ce qu'a fait le travail du député à l'oncle sur le audiovisuel public. En fait, on s'aperçoit, et c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs opposer assez facilement lorsqu'on vous dit « Mais non, vous voulez baisser les dépenses publiques, vous êtes les méchants, vous voulez couper dans l'éducation, couper dans la santé, vous êtes irresponsables. » Regardez où va l'argent. À France Télé, par exemple, ils ont un château Il y a des syndicats qui ont un château, littéralement avec une piscine. Vous avez, lorsque Michel Barnier, qui est arrivé à Matignon, on a appris qu'il avait 27 000 euros de retraite par mois, que de l'argent public. Et j'ai rien contre Michel Barnier, il n'a fait qu'être dans un système. Mais ça veut dire que l'argent, en fait, il va là. Vous aviez en matière de santé, par exemple, le premier système de santé au monde il y a 25 ans. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on a perdu 20 places dans les classements, on a dépensé plus d'argent et on n'a pas un lit d'hôpital en plus. En Chine, vous construisez deux hôpitaux en 9 jours. Nous, ça va dans la bureaucratie.
Et l'école, enfin, l'école, on peut tirer le fil.
Et à chaque fois, et c'est très intéressant, à chaque fois qu'on augmente les budgets dans les ministères, ça va pour les pensions de retraite parce qu'ils ont ce qu'on appelle doucement et pudiquement des régimes dits spéciaux. Et en fait, ça s'appelle des privilèges. Or, comme le dit très bien Javier Milei, il n'a rien contre les droits des uns et des autres. Seulement, si votre droit il est payé par l'argent de quelqu'un d'autre, ce n'est plus un droit, c'est un privilège.
Absolument.
Il faut se rappeler qu'on a
dit ça. Il a dit ça il y a 2-3 mois, je ne sais plus à quel propos.
Il le dit souvent.
Oui, vous avez raison.
Et ça, on parlait des inscriptions sur les frontispères de nos bâtiments publics. On a fait la révolution contre les privilèges et on a maintenant des gens à gauche qui sont les plus grands défenseurs des privilèges. Donc c'est pour ça qu'il faut une bataille sémantique.
Ils vous diront
sémantique.
Que ce n'est pas pareil.
Enfin, les privilèges n'ont jamais aucune justification dans notre démocratie, dans notre république normalement. Et c'est pour ça que. Et un petit mot sur quand vous disiez le libéralisme. Millet a eu d'ailleurs cette réflexion. Il a dit avant qu'il n'intervienne dans le débat public, le mot libéralisme en Argentine était très négatif. Mmh. Et en fait, lui, en rappelant haut et fort les idées libérales, du coup, l'a rendu beaucoup plus positif parce que les gens se sont dit finalement, je suis d'accord.
D'accord, donc vous n'adoptez pas la même stratégie que Romain qui dit qu'il vaut mieux changer de mot plutôt que de s'engager dans une explication sur la sémantique.
C'est complémentaire, mais il faut noter que Millet, en tout cas, a réussi à se faire élire en assumant le mot libéralisme, et donc que quand on mène la bataille, ça a quand même des fruits. Et après, si on veut l'emporter, ou si on ne veut pas heurter, ou si on veut contourner pour aller directement, c'est ce que j'ai fait avec le sondage pour tester les solutions libérales, les gens, si vous allez au café du coin, leur dire « Est-ce que vous êtes des libéraux ?» Les gens disent « Je ne sais pas trop exactement ce que ça recoupe. Mmh. » Et si vous leur demandez « Est-ce que vous pensez que si on vous baisse les charges, les impôts, les URSSAF, etc., l'économie marcherait mieux et vous serez pour à titre individuel ?» Les gens vous diront beaucoup plus oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être pragmatique.
Oui, mais si je peux me permettre, si vous leur demandez si l'école doit être gratuite, l'hôpital doit être gratuit, les transports doivent être gratuits, ils vont vous dire « Oui aussi ».
Oui, mais sauf que là, c'est du populisme parce que c'est jamais gratuit.
Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours quelqu'un qui paye au bout.
Mais nous, on parle d'un système et on dit les choses
sans
populisme.
Parce qu'il y a quand même, et je laisse la parole à Romain, il y a quand même deux phrases qu'on entend souvent. C'est un, c'est gratuit, ce qui ne veut absolument rien dire. Et deux, il n'y a pas assez de moyens. Ça, c'est la phrase des moyens, ça, c'est un truc en France qu'on entend depuis 50 ans.
Ce qui est un gag, mais Romain en parlera très bien. Et d'ailleurs, il en parle très bien sur ses comptes des réseaux sociaux depuis plusieurs années.
Allez-y, faites un... Je vous laisse parler, Romain, sur les...
Non, mais il est évident que rien n'est gratuit et que les gens pensent ne pas payer, mais ils payent quand même. Même quelqu'un qui est au SMIC, sans le savoir, il pense ne pas payer d'impôts, il paye déjà minimum 50% d'impôts. Toute personne qui travaille en France paye minimum 50%. Donc en fait, on est tous en train de payer toute la journée pour des services qu'on ne va même pas forcément utiliser. On est tous abonnés quelque part de force à l'audiovisuel public, à la SNCF, au sport public, au musée, au théâtre, à énormément de choses qui, en fait, si mon hobby c'est d'aller au théâtre tous les week-ends, très bien, mais pourquoi j'ai besoin de le faire payer par les autres ? C'est pas juste ça. Donc on croit que c'est gratuit, parce que quand on va à la bibliothèque c'est gratuit, mais en fait on est tous toute la journée en train de payer. Si on fait l'addition, si on dit aux gens, voilà combien ça vous coûte chaque année, ça vous coûte en fait 50% de tout ce que vous produisez, d'avoir tout ce qui est soi-disant gratuit. Est-ce que vous ne préférez pas avoir cet argent dans votre poche ? Peut-être que vous allez dépenser que 10 ou 20% pour ces services, et le reste, ce sera pour vous. Effectivement, tout le monde serait d'accord. Et c'est la grande force d'ailleurs de Milei, c'est d'avoir prouvé qu'en fait, en disant la vérité aux gens, on peut gagner. Et ça... c'est complètement absent des débats politiques depuis, depuis 50 ans en France, voire plus. Dire la vérité aux gens, c'est-à-dire leur dire « Non, ce n'est pas gratuit. Attention, tu payes pour ça. Est-ce que tu es d'accord de payer pour ça ? Ça te coûte tant par an. » De dire la vérité aux gens, ça peut avoir des résultats même dans les urnes. Et les gens finissent par comprendre et votent en conséquence.
Alors, on va faire une interruption et ça tombe bien d'ailleurs parce que vous parlez du gratuit. Radio Courtoisie ne vit que grâce aux dons et n'a pas de subvention. Et donc, on va faire une petite interruption pour les auditeurs d'Appel aux dons.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Donc on reprend, on parlait de la pédagogie, effectivement. Alors, il y a un petit article, un petit passage, je crois, Michael, dans votre livre que je ne retrouve plus, sur le fait d'éclairer les gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils payent. Et à partir du moment où on pourra les éclairer, on sera sorti en fait du problème, parce que le fait que ça soit opaque, ça permet de continuer à gaspiller. Puisque les gens, comme vous le disiez Romain, le smicard ne sait pas qu'il paye. C'est une très bonne phrase. Comme il ne sait pas, bah, il ne peut pas se révolter.
Et je vais même prolonger ce que dit Romain. C'est-à-dire que non seulement en fait, on paye de force, mais des solutions libérales ont aussi un impact très très fort sur le niveau de prix. Puisque quand vous êtes payé, admettons, 1500 euros, vous êtes payé, vous touchez juste le SMIC, votre employeur et vos taxes et vos impôts, ça va pour nourrir plein de choses, etc. Sauf que quand vous allez au café d'en face, admettons que vous prenez un sandwich qui va coûter 10 euros. Les 10 euros, ils ne vont pas du tout dans la poche du restaurateur. Ils vont dans ce qu'il va devoir payer d'URSSAF parce qu'il embauche quelqu'un. Il va dans les taxes qu'il paye pour le mec qui va lui livrer le pain, lui livrer le jambon, lui livrer le beurre. Il va dans ses impôts sur le revenu, dans les impôts de la société. Il va dans toutes les taxes professionnelles, vous savez, qui sont très nombreuses, locales ou nationales, les trucs à la formation, etc. Et donc, en fait, il lui reste quasiment rien. Et donc, quand vous coupez dans un système qui est très étatisé, et ben en fait, vous baissez les prix. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible de façon intuitive. Mmh. Mais en fait, plus vous baissez les dépenses publiques, moins il y aura d'impôts pour tout le monde et plus les prix pourront être bas. Et donc, plus vous améliorerez le pouvoir d'achat, même de ceux qui pensent bénéficier du système et qui, en fait, lorsque vous avez un système où il y a de la planification qui se fait, ça finit toujours par des files d'attente et des tickets de rationnement. Mmh. Et c'est si vrai que d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des problèmes en ce moment en France, on voit que, ah bah tiens, finalement, vous vous souvenez, Bruno Le Maire, on va mettre des cols roulés en hiver, on va faire des chèques de ceci ou cela. Parce qu'en fait, le marché est tellement déréglé que l'État a tellement gaspillé de l'argent et qu'il n'y a plus d'argent dans la poche des gens.
On met des rustines.
Et on met des rustines. Mmh. Et au final, on se retrouve vraiment dans des situations de type soviétique.
Absolument. Absolument. Alors, moi, je suis moi-même entrepreneur. J'avais fait le calcul. Quand je rentre 1000 euros de chiffre d'affaires, à la fin des fins, après toutes les taxes, les impôts, etc., entre ma boîte et après dans mon foyer, ce que je sors en allant acheter ma plaquette de beurre avec mon supermarché, ce que mon vrai pouvoir d'achat, c'est sur 1000, il me reste 150. À peu près.
Vous êtes taxé 85%.
15%. J'avais calculé, c'est à peu près 15% qui me reste. Alors, voilà. Romain ?
Oui, oui, ça ne me surprend pas du tout. C'est d'ailleurs un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai l'ambition de créer un petit outil numérique pour permettre aux gens de savoir vraiment combien ils payent, parce qu'en fait, on sait tous ce qu'on a, c'est-à-dire on a des routes, des écoles, etc., mais on ne sait pas combien on paye, c'est très dur à savoir. Moi, j'avais fait aussi le calcul par curiosité intellectuelle, donc j'avais pris un tableau Excel avec... J'avais passé du temps sur les sites de l'État, de l'URSSAF, etc. pour recenser toutes les taxes. J'en avais découvert plusieurs, d'ailleurs. Et effectivement, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a plutôt un bon salaire et qui est célibataire sans enfant, il va être imposé au-delà des 80%. Et quelqu'un qui est actif, qui peut bénéficier d'allocations sociales, comme par exemple... une mère célibataire au SMIC, elle va quand même être imposée à 50%. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui travaille en France, il va être imposé entre 50 et 85%. Ça veut dire qu'en fait, on est devenu le peuple le plus taxé, probablement, de l'histoire humaine. C'est-à-dire que même les serfs du Moyen-Âge ou les gars qui ont construit les pyramides en Égypte, ils étaient bien moins taxés que nous. C'est absolument anormal. Alors, évidemment, on vit mieux qu'eux, puisque le reste à vivre nous permet de vivre dans un certain confort, puisqu'on est on est au 21e siècle. Mais tout de même, c'est injuste. Et ça, c'est le deuxième enseignement de Milley. Hein. C'est qu'il a réussi à faire comprendre que l'impôt était excessif et devenait du vol, qui était injuste, et que l'État qui se présente comme être là pour nous aider était en fait notre ennemi. C'est un changement de mentalité majeur qui fait que les Argentins se sont réveillés soudainement et aujourd'hui valident pleinement sa politique.
Et juste sur ce point, pour prolonger exactement ce que dit Romain, lorsque même vous touchez le SMIC et que vous êtes dans le public, donc du coup vous êtes taxé à 50% à peu près, c'est ce qu'il dit, et vous vous disiez que vous êtes, lorsque vous êtes dans le secteur privé, taxé entre 80 et 85%.
C'est un calcul,
non, mais c'est, oui, mais ce qui est cohérent avec pas mal d'autres calculs faits par ailleurs. Et donc ça veut dire deux choses très importantes, ça veut dire que la personne elle est déjà très taxée, et l'argent est pris du secteur privé. Ça veut dire que si l'argent n'était pas pris dans le secteur privé, que les entreprises privées n'avaient pas 85 ou 80% d'impôts et taxes, elles pourraient embaucher.
Ah oui.
Elles pourraient faire que non seulement la personne, bah, du coup, ne touche pas le SMIC parce qu'elle a des salaires qui ne sont pas bureaucratisés, qui n'ont pas été pris dans la machine de l'État, bureaucratique, technocratique, etc., et puis qui va dans le secteur véritablement productif, donc non seulement augmenterait son salaire, mais en plus, comme je vous l'ai dit, les prix baisseraient, et donc vous avez un pouvoir d'achat qui naturellement devrait être à peu près de 50% supérieur pour toutes celles et tous ceux qui travaillent, et ça c'est une injustice totale, et on le voit par exemple, on parlait de l'immobilier tout à l'heure, il y a 30 ans, par exemple, il fallait 5 années de salaire médian pour pouvoir s'acheter un appartement à Paris. Aujourd'hui, c'est 25 années. Ça veut dire qu'à cause de nos politiques économiques, de nos réglementations, etc., des transferts de richesses imposés, etc., il faut travailler 5 fois plus pour le même standard de vie. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est totalement délirant.
Ce qu'on appelle une paupérisation.
Une paupérisation et qui n'est pas liée au manque de travail. On entend toujours les politiques dire « Non, non, il faut que les gens travaillent plus. » Mais les gens travaillent déjà beaucoup.
En productivité, on travaille plus, oui.
C'est juste qu'on leur arrache le fruit de leur travail et c'est totalement populiste de faire croire que ça marche bien.
Alors moi, je crois que vous avez touché du doigt quelque chose. Pardon, allez-y Romain.
Pardon, il suffit de voir le salaire d'une caissière ou d'un agent d'entretien en Suisse, dans n'importe quel canton, on est au-delà des 4 000, parfois des 5 000 euros. C'est pourtant le même travail. C'est juste que toute l'économie suisse est plus libre. Tout le tissu productif est meilleur, ce qui fait que l'intégralité des gens vivent mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on dit défendre, oui, les classes les moins aisées, défendre les pauvres, etc., bah, si on veut défendre les pauvres, il suffit de baisser les impôts et d'enlever des normes. Hein. C'est aussi simple que ça.
Mais moi, je pense, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Romain, sur votre idée de faire en sorte de clarifier et de faire lever l'opacité. Et je cite le paragraphe donc, de Michael sur... La révolution Milei, je le redis aux auditeurs, page 117. Moi, je trouve que c'est très très important pour aller de l'avant. La clé de la domination de l'État réside dans le fait que les opprimés croient qu'ils sont eux-mêmes l'État. C'est sur ce point que se concentre Milei. Sa mission est d'éveiller la conscience de classe des exploités en leur révélant la véritable nature du système. Milei identifie les exploiteurs comme la caste politique et qualifie de parasites, etc. Donc en deux mots, comme dit Philippe Bagus, que reprend... Donc, Michael, ce qui peut faire tomber les dirigeants, c'est un changement dans l'opinion publique ou, en termes marxistes, un éveil de la conscience pardon, de classe. À mon avis, c'est fondamental. C'est-à-dire que tant que c'est opaque, en fait, il n'y a pas de révolution, au sens, pas évidemment, révolution marxiste, mais il n'y a pas de révolte. Et d'ailleurs, au moment des Gilets jaunes, souvenez-vous, une personne disait « Mais payer des impôts, ça ne nous ennuie pas, mais où va l'argent? Comment est-ce qu'il est dépensé ?» Donc c'est sur l'utilité de l'impôt et pas sur l'impôt même que les gens critiquent, non?
Oui, absolument. Dans un système libéral libertarien, on me dit souvent, mais c'est quoi alors le niveau d'État, de dépenses publiques qu'il faut? Moi, j'aurais une définition librement inspirée des idées de l'école autrichienne, etc. C'est le niveau qui est nécessaire à la bonne marche de l'économie. Donc, être en bonne santé, c'est nécessaire à la bonne marche de l'économie. Être bien instruit, c'est nécessaire à la bonne marche de l'économie. Et être en sécurité, c'est nécessaire à la bonne marche de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout dans ces services soit de la bureaucratie, des emplois à vie, des privilèges, etc. Ça veut dire qu'il faut chercher évidemment le moyen le plus efficace, mais il faut néanmoins avoir un minimum. Mais tout le reste, il faut pouvoir expliquer que bah, non, en fait, les autres dépenses, ça ne permet pas d'améliorer leur sort. Et en fait, le passage que vous citez, donc il est très important, il est dans la bataille culturelle.
Absolument.
Et en fait, Philippe Bagus cite un papier qui, pour moi, est vraiment toute la stratégie de Milei. Souvent, les gens me disent « Ah, mais c'est quoi les secrets de la communication de Milei, sa stratégie, etc. ?» En fait, le secret, c'est qu'il n'avait pas de stratégie présidentielle, mais qu'il avait une stratégie de bataille culturelle qu'il a repris de Murray Rothbard dans un papier qui s'appelle The Right Wing Populism, qui explique en fait qu'il y a un populisme de gauche qui dit exactement tout ce qu'on a décrié, c'est-à-dire vous êtes pauvre, il faut donc que l'État s'occupe plus de vous, qu'on taxe davantage, et comme ça vous améliorerez votre sort. Ce qui est totalement faux, mais ce qui est populiste, mais ce qui marche dans l'opinion. Et par opposition à ça, il dit on ne va pas faire des démonstrations, des raisonnements, des argumentés, etc. auprès des élites, puisque de toute façon, en plus, les élites sont toujours un petit peu plus ou moins dépendantes de l'État. Il faut aussi s'adresser au peuple et lui expliquer les choses. Et donc, c'est pour ça qu'il oppose à un populisme de gauche, un populisme de droite. Ouais. Et dans le populisme de droite, il faut dénoncer les errements d'un État trop puissant, les errements d'une caste qui, en fait, se gave sur l'argent et sur le dos des travailleurs. Et il n'y a que comme ça que les gens peuvent comprendre et évoluer dans les votes. Et c'est exactement ce qu'a fait Milei, parce qu'il voulait populariser les idées qui étaient nécessaires pour l'Argentine de son temps. Et après, c'est devenu de plus en plus populaire qu'il a pu accéder à la présidence de son pays. Et en fait, c'est le premier à avoir vraiment adapté et appliqué la stratégie décrite par Murray Rothbard. Et en fait, c'est exactement celle qu'il faut faire, c'est-à-dire parler aux gens directement de leurs problèmes et de leur expliquer pourquoi, en fait, ils sont dans un système d'appauvrissement. Et c'est ce qui a manqué beaucoup dans le débat public. Et c'est pour ça que, par exemple, le travail de Romain que je cite dans mon livre permet aussi d'avoir des millions de vues sur quelques tweets, parce que les gens voient bien qu'il y a un problème, qu'ils payent trop, qu'il n'y a pas de service public en face qui est effectivement amélioré. Au contraire, c'est normal, puisque plus vous avez de dépenses, plus l'organisme grossit, plus vous avez des technostructures qui surveillent les autres technostructures, que vous avez des emplois à vie, qu'il n'y a plus de performance, etc. etc. En fait, c'est en dénonçant tout ça que les gens voient, en le formalisant, qu'on peut gagner dans l'opinion.
Alors, gagner dans l'opinion, vous dites. Si on parle un peu justement de bataille culturelle, de conquête culturelle, et on revient à l'Argentine en 1930, parce que j'ai lu dans un de vos livres que le cauchemar commence en 1930, si j'ai bien compris, et s'arrête. S'arrête à Milei. Alors, donc ça signifie que, comme je le disais dans mon édito, il y a eu un travail de conquête culturelle pendant toutes ces années-là dans la société civile qui a permis l'arrivée de Milei, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez vu travailler des gens dans la société civile qui ont essayé de faire comprendre par pédagogie, comme disait Romain, qu'il y avait un problème dans la société argentine. Et à un moment donné, Milei est arrivé par le simple fait qu'on avait travaillé la société avant.
Non, c'est lui qui l'a travaillé.
C'est lui
qui l'a travaillé. C'est pour ça que le titre, c'est Révolution Milei. Et le sous-titre, c'est l'avènement d'un nouveau libéralisme. Et d'ailleurs, c'était une discussion qu'on avait eue lorsque j'avais fait une note il y a quelques mois sur le milléisme avec Romain, et qui m'a dit, mais t'as très bien montré, au fond, dans ta note, que le milléisme, c'est le nouveau libéralisme. Et en fait, c'est parce que Milei l'a à la fois conceptualisé avec un héritage idéologique de l'école autrichienne, mais également augmenté de nouveaux économistes et surtout avec une force de persuasion, une force et une capacité à faire comprendre aux uns et aux autres de façon simple les principes de son libéralisme libertarien. Et du coup, ça a donné quelque chose d'assez paradigmatique, d'assez fort, et que je mets en opposition au marxisme. Au marxisme, tout le monde comprend, même si c'est faux, mais tout le monde comprend. Le libéralisme, les gens comprenaient moins. Là, le libéralisme, les gens comprennent d'autant plus qu'on vit dans des systèmes qui sont socialistes en termes économiques, et que du coup, on a un nouveau libéralisme qui a émergé grâce à Milei, et donc qui l'a mis en avant de façon très très puissante. À la fois, comme l'avait dit Romain, dans les médias, aussi grâce à la désintermédiation des réseaux sociaux. Il a fait aussi des pièces de théâtre, on le voyait avec des coups de batte de baseball frappés sur des banques centrales fictives, etc. Et donc, à tel point que les gens ont fini par comprendre que, en fait, il y avait une alternative qui existait, qui était le libéralisme proposé par Milei. Au début, ils étaient contre, et puis après, dans le doute, il y en a qui se sont dit, mais de toute façon, tout ce qu'ont fait les autres, ça ne marche pas. Donc on va peut-être se tourner vers ce qui nous est présenté comme l'alternative, même lorsqu'elle est décriée, mais qui est l'alternative.
Donc c'est Milei qui a lui-même façonné, s'est approprié et façonné le libéralisme qui existe aujourd'hui. Romain ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et donc pour continuer le parallèle avec la France, puisque on évoquait tout à l'heure les chiffres français, selon vous, ça doit se faire de la même manière avec une conquête culturelle et invoquer la société civile pour aller de l'avant ?
Oui, moi je pense que la stratégie à adopter, c'est celle qu'on suit avec Michael et d'autres depuis plusieurs mois, c'est de faire changer les mentalités et ensuite des responsables politiques reprendront ces idées tout simplement parce que ben, y a une demande. C'est leur travail aussi de sentir le vent de l'opinion et de s'y adapter. C'est aussi le jeu démocratique. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire chacun un petit peu de notre côté, mais avec force et cohérence, de faire comprendre tout simplement que la liberté économique, ça fonctionne. Ça semble avoir été un peu oublié en France depuis 70 ans, mais on sent un frémissement qui fait que ces idées se diffusent de plus en plus dans la société française. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre aussi, qu'il y a un ras-le-bol général. Vous avez parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, on a parlé des entrepreneurs aussi. Il y a un ras-le-bol général des gens qui sentent que voilà, ça fonctionne pas, ça va pas. L'illusion qu'on pouvait avoir dans les années 90 de meilleur système de santé, meilleure éducation du monde, etc., bon, elle n'est plus là du tout. On travaille, on n'a plus ce qu'il faut à la fin du mois. Ce ras-le-bol, il peut faire émerger ce sentiment milléiste quelque part dans la société française. Et ensuite, eh bien, on verra qui pourra l'incarner. Mais l'essentiel, c'est de passer par les idées, ouais.
Quel?
Tout à fait, il faut mener la bataille culturelle, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, pour populariser l'exemple que je trouve, en plus d'un point de vue intellectuel très, très lumineux, de Ravir Milley, à la fois parce que ça fait appel à des notions économiques qui sont oubliées. Un ami qui a étudié à Sciences Po il y a quelques jours me faisait son retour, il me dit mais en fait j'ai appris plein de trucs, soit je suis passé moi totalement à côté lors de mes cours d'économie, soit c'est pas au programme, mais en fait qui explique bien mieux l'économie que ce qu'on apprend. Très souvent je fais l'analyse, qu'est-ce qu'un footballeur? C'est quelqu'un qui est sur un terrain de football et qui joue au football. Personne ne viendrait dire qu'un footballeur, c'est un universitaire dans un laboratoire qui étudie le football. Les économistes, pour moi, de la même façon, ce sont des personnes qui sont sur le terrain de l'économie, qui entreprennent, qui investissent, qui comprennent les mécanismes. Les autres, ce sont des chercheurs universitaires sur les théories économiques, ce qui est un petit peu autre
C'est
chose.
un peu autre chose.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner le plus la parole à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui voient des exemples réels et qu'on peut décrier des vrais ch changements économiques, mais également en donnant la parole aux entrepreneurs qui sont la clé de l'économie, puisque ce sont eux qui produisent, ce sont eux qui entreprennent, ce sont eux qui permettent d'avoir des produits au moindre prix et d'avoir des produits qui existent et qui sont accessibles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une réunion à la fois des économistes, des entrepreneurs, des personnes qui réfléchissent, qui analysent les autres modèles pour pouvoir mener cette bataille. C'est aussi pour ça qu'avec Romain, on a fait ces nuits de la liberté, qu'on est très présent sur les réseaux sociaux, qu'on fait des podcasts, qu'on fait des tweets, qu'on fait des posts LinkedIn. Et on voit qu'en fait, le but, c'est pas nous, comme un parti politique, qui vous disons, on a un message, on vous le donne et comme ça, vous êtes d'accord avec nous. Ce qu'on dit, c'est il y a des problèmes, il existe des solutions, mais les meilleures solutions viennent des entrepreneurs, viennent de celles et ceux qui sont aux manettes de l'économie réelle et du secteur privé, et c'est à eux aussi de s'en saisir. Et on voit, toutes choses égales par ailleurs, que lorsqu'il y a eu l'attaque Zucman dans le débat public, donc on avait un universitaire qui de gauche qui venait donner ses lumières sur le fait qu'il fallait plus taxer, etc. Très bien, qui a jamais travaillé dans le secteur privé, et l'autre du coup
Toujours
il y a
plus.
toujours plus, mais il y a quand même eu beaucoup d'entrepreneurs, je pense notamment à Jean-Philippe Cartier ou Éric L'Archevêque, qui sont allés dans les médias défendre les idées que bah non ça déconne à plein tube et que vu de la fenêtre d'un entrepreneur, voici la façon d'améliorer l'économie. Et donc il y a de plus en plus aussi d'entrepreneurs qui prennent la parole. Et je pense qu'on est en train je dirais pas de gagner la bataille culturelle, mais en tout cas de marquer pas mal de buts parce que bah il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait aucun problème de déficit. Là, on a quand même épuisé deux premiers ministres qui ont dû sauter
Oui.
à cause d'un déficit budgétaire et de budget qu'ils n'arrivaient pas à faire. Les gens comprennent qu'en fait, là, cette année, on a 0% de croissance.
Alors.
Donc, les gens comprennent et il y a la désintermédiation des réseaux sociaux qui permet de donner des messages. Et surtout, on a l'exemple de Ravir Milley qui fonctionne, ce qui n'existait pas il y a quelques années.
La dette, on en parle depuis très très longtemps. Bayrou avait eu le mérite d'en parler en 2002, je crois.
17, ouais.
Maintenant, je pense que si on parle pédagogie, il y a beaucoup d'économistes, je dis beaucoup, j'en entends deux, trois, souvent, tous les deux, trois ans, et toujours les mêmes, je ne vais pas les citer, qui disent demain c'est le chaos. Demain c'est fini. Demain on va dans le mur. La France, ça sera l'Argentine en 1980, je sais plus.
2000 ou
80, ça, oui, je sais plus. On pouvait plus retirer de billets aux distributeurs, quoi. Bon, ou ça sera la Grèce. En deux mots, ils estiment qu'on arrive au bout du processus et que si on fait rien, eh ben, on tombe dans le vide. Or, on s'aperçoit qu'on tombe toujours pas dans le vide. Donc, il y a aussi un problème de pédagogie, en ce sens que si on arrêtait de crier au loup, le jour où le loup va vraiment arriver, on croira plus.
Alors, oui, c'est plus...
Je me fais l'avocat du diable. Non,
vous avez raison, parce que c'est un ressenti que je nuancerais justement parce qu'on a interrogé les Français là-dessus avec notre sondage. Première question, pensez-vous que les dirigeants politiques vous disent la vérité sur l'économie et le budget français? Oui, 19%, non, 81%. Donc les Français savent très bien que ça va beaucoup moins bien que ce que peuvent dire les politiques. Deuxièmement, là où vous avez raison dans l'opinion, c'est que par rapport à l'Argentine, quand vous avez, quand vous avez une politique économique qui déconne sur le plan budgétaire, bah, vous dévaluez, donc vous avez les prix qui tout de suite augmentent et vous louez tout de suite. Nous, on est protégés de façon artificielle, mais dans le temps, par l'euro. Et donc, on a une dette qui augmente. Mmh. Et donc, déjà, on sacrifie totalement les nouvelles générations. Oui. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, la dette au sens du budget n'est pas calculée comme la dette de vous et moi. Nous, notre dette, c'est tout ce qu'on doit payer. La dette de l'État, c'est la somme de ses découverts. Mmh. Mais la véritable dette, si on compte quand vous avez un emprunt bancaire, vous savez que pendant 20 ans, par exemple, vous allez devoir rembourser 200 000 euros. Là, pendant 20 ans, par exemple, l'État, il ne va pas rembourser sa dette. La dette, c'est juste ce qu'il a contracté comme arriéré, c'est son ardoise. Mais son vrai endettement, ce sont ses engagements, comme le serait un particulier. Et là, on n'est pas à 120%, on est à 200 à 300%. Et donc, on est en train de... C'est quelqu'un qui est complètement dépensier, qui va voir son banquier et qui dit « Bon, bah là, je sais que j'ai 100 000 euros de découvert, donc pour que vous puissiez me redonner 500 000 euros... » on va dire que vous endettez mon enfant. Et le banquier vous dirait oui. C'est exactement ce qui se passe, ce qui est non seulement totalement immoral et irresponsable, mais en plus, du coup, à un moment donné, ça se fait sentir. Et comment ça se fait sentir sur le budget français? Ça se fait sentir avec les intérêts de la dette. Et alors, pendant ces dernières années, on nous disait « Ah, mais c'est génial, on s'endette à bas coût parce qu'il y avait le n'importe quoi qu'il en coûte », pour reprendre ce que disait David Lisnard sur les taux d'intérêt qui étaient très faibles. Néanmoins, maintenant, ils ont augmenté, ce qui est normal. Ils vont continuer à être forts, notamment du fait aussi de facteurs exogènes comme l'inflation dû à la guerre en Iran et d'autres. Et donc là, on va passer de 50 milliards d'euros par an à 100 milliards d'euros par an d'intérêt de la dette, plus que le budget de la santé, plus que le budget des armées, etc.
Là, on le voit, c'est les autres postes qui sont effectivement impactés.
Voilà, et il y a des postes qui sont impactés. Et puis, il y avait Neil Ferguson qui avait dit quelque chose, qui avait fait une analyse, pardon, et qui disait lorsque un pays ou un empire a les intérêts de la dette qui dépassent sa croissance, ben, il périclite. Oui, qui dépasse son budget des armées, il périclite.
Mais c'est déjà le cas.
Et on en est exactement là. Et donc, on a un déficit budgétaire qui, en fait, a des impacts très, très forts et surtout qui démontre qu'on est incapable de maîtriser la dépense. Et donc, certes, les gens ne voient pas tout s'écrouler, mais voient que les prix augmentent. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 25 points ces dernières dans 5 ans. On ne peut plus entreprendre sans être taxé. Donc, les gens entreprennent ailleurs. Donc, il y a moins de capitaux, il y a moins d'emplois. Et
vous,
donc
Michael,
ça se fait lentement, mais ça se fait néanmoins.
Alors, si je comprends bien, pour vous, contrairement à ce que disent certains qui parlent de chaos ou de vertige dans un... Pour vous, c'est une mort douce.
C'est une mort douce qui se fait de façon, on va dire, plus explicite sur les questions budgétaires et pas les questions économiques. Les questions budgétaires, c'est comment vous avez un tableau, vous rentrez des chiffres pour cette année. L'économie, c'est autre chose. L'économie, c'est, que, comme le disait Romain, combien il y a de personnes dans la pauvreté, combien il y a de personnes qui améliorent son pouvoir d'achat, combien de personnes qui peuvent bien se loger, etc. Mais sur la seule question budgétaire, c'est là que vont se concentrer tous les débats, c'est là qu'ils se concentrent depuis un petit moment, puisque moi, je faisais partie de ceux qu'on disait un petit peu les Cassandres. On disait non, mais là, on a quand même des lourds problèmes en termes d'endettement, etc. On disait non, mais ça va. Et puis après, on dit, ah bah tiens, finalement, il faut trouver 5 milliards en plus. Finalement, c'est pas 5, c'est 20. Puis finalement, c'est 40, 45. Puis finalement, notre déficit, il est plus à 3,5, il est à 6%, ouais. Etc. Ouais. Ou 7% projeté, etc. Et donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'en matière d'endettement, à un moment donné, les gens disent, là, votre taux, vous estimez qu'il est à 3,5%. Nous, on estime que vous êtes incapable de faire des efforts. On va vous le mettre à 3,7, voire 4%. Et donc là, c'est 10, 15, 12 milliards qu'il faut chercher en plus. Et les politiques, comme ils refusent de faire tout travail dans ce sens, sont incapables de le faire. Et donc, ils disent, mais là, comment on fait? On ne peut pas se réendetter. Donc là, il y a des mécanismes qui se font soit par Bruxelles, soit par le FMI. D'abord, ce serait plutôt Bruxelles, qui peuvent se mettre en place et où, du coup, il y a des demandes qui peuvent être imposées par l'extérieur. Et ce qui, d'ailleurs, je pense, on en parlait avec l'économiste Robin Rivaton, peut plaire à un certain nombre de politiques qui vont se dire, finalement, regardez, nous, on était les gentils, hein, on voulait vous laisser tout gratuit. Et puis les méchants bruxellois, les méchants autrichiens, les méchants allemands, etc., ils nous ont obligés. Donc nous, on a dû prendre des responsabilités, couper quelque chose. Mais nous, on reste les gentils, on va continuer là-dessus. Ça, c'est le risque. Et c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie pour dire que ce n'est pas qu'un problème budgétaire, c'est un problème économique global qui n'est pas que inventé ou de la créativité de gens qui sont un peu Cassandre, mais que c'est très réel. Et quand on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, ou même si on compare avec les votes de partis un petit peu contestataires que sont LFI ou le RN, on voit bien qu'il y a une exaspération et que les gens voient bien que les politiques
ne le font pas. Le prix de l'essence est 1 euro plus cher que lors de la révolte des gilets jaunes.
Oui, mais ça a des conséquences terribles, silencieuses pour les gens. Silencieuse pour les gens qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas aller sur les plateaux de télé dénoncer tout ça, mais qui ont des conséquences terribles au quotidien. Juste sur le sondage, on avait posé justement l'avant-dernière question, c'était de dire, pensez-vous qu'en 2027, un candidat permettrait d'améliorer votre pouvoir d'achat? Non, 81%. Donc ça veut dire que les gens sont en fait désabuser des politiques et qui voient bien qu'il y a personne.
C'est la faillite du modèle démocratique.
C'est une faillite, en tout cas, du modèle démocratique tel qu'il est, avec les représentants politiques qu'on a et qu'un certain système continue à entretenir. Mais c'est pour ça qu'il y a de la place pour une solution alternative et qu'il faut avancer à fond dans ce sens en mettant tous les efforts dans la bataille, parce qu'en fait, c'est les seuls qui peuvent, au fond, intéresser les gens sur leur propre sort.
Romain, est-ce que, si on revient sur l'Argentine, c'est 1990, c'est ça, la crise
2001.
C'est 2001 quand il y a eu la grosse crise. Oui, pardon, 2001. Est-ce que vous connaissez. On pourrait faire un parallèle entre les chiffres de 2001 en Argentine et ce qui se passe aujourd'hui en France? Ou est-ce que c'est pas comparable?
Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'était une situation très particulière où ils avaient fait absolument n'importe quoi. Ils avaient inscrit dans la constitution que 1 peso, donc la monnaie argentine, valait 1 dollar. Donc on peut écrire ce qu'on veut hein, dans la constitution, mais après, il y a la réalité du marché qui nous rattrape un jour ou l'autre. Donc, ils ont dépensé l'argent comme des dingues puisque leur peso valait 1 dollar. Moi, quand j'habitais là-bas, je m'amusais de leur demander ce qu'ils faisaient avant 2001 parce qu'il y avait des récits absolument incroyables. Le chauffeur de taxi, il emmenait toute sa famille en vacances aux Bahamas pendant 3 semaines. Ils ont appelé ça la période de la présidence champagne parce qu'ils pouvaient boire du champagne tous les jours. Enfin, c'était la fête totale dans le pays. Puis, sauf qu'un beau jour, les gens, ils ont dit « Bon, maintenant, ils sont où les dollars ?» Et puis, évidemment, il n'y avait pas de dollars. Donc tout s'est effondré du jour au lendemain. Donc c'est pas comparable.
D'accord. Donc ils ont artificiellement établi un taux de parité.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et donc du coup
basé
ils ont
sur rien. Oui. Ouais, basé sur rien. Donc ça a duré quelques années et puis à un moment ça s'est effondré. Moi évidemment tout ce qu'a dit Mickaël est vrai. Donc je veux dire je vais pas minorer la situation catastrophique dans laquelle la France est et surtout se dirige de plus en plus vite. Mais là où je suis un peu pessimiste, c'est que justement les Argentins, ils avaient connu cette crise de 2001 et ils en avaient connu plein d'autres. C'est-à-dire que l'Argentine, dans son histoire, vous l'avez dit, depuis le début du XXe siècle, elle avait fait une vingtaine de fois faillite. Donc c'est-à-dire que les gens, une vingtaine de fois, ont vu leur État être mis en situation de faillite avec, comme vous l'avez dit, la queue devant les banques pour retirer son argent, les tickets de rationnement, le manque de nourriture, etc. Et donc ils ont dû vivre ça une vingtaine de fois en tant que peuple pour enfin choisir une solution radicale à la Milei. J'espère que ce ne sera pas notre cas. J'espère qu'on n'aura pas à toucher le fond et encore moins qu'on aura à toucher le fond une vingtaine de fois avant de se réveiller.
Alors, il nous reste 10 minutes. Avant d'aborder vos projets et pour les mettre en avant, notamment Romain sur le mouvement miléiste et vous aussi, Mickaël, j'aimerais aborder un dernier point qui concerne ce qu'on appelle en France le souverainisme. On parle de souverainisme, c'est un gros mot. Bon. Et notamment des gens qui défendent les taxes douanières, qui défendent un pays, on va dire, fermé commercialement et qui permet de protéger ce qu'ils disent, ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que fait Milei sur ce point-là, sur les taxes douanières, sur les frontières, sur les échanges.
Ben, si je puis me permettre, ouais, c'est un point très intéressant, puisque donc moi j'ai vécu là-bas avant l'arrivée de Milei, le pays était totalement fermé. Rien ne pouvait rentrer à part quelques produits qui étaient filtrés, des produits chinois, des choses comme ça. Ce qui fait que, effectivement, l'économie interne était soi-disant protégée, l'industrie argentine était protégée de la concurrence internationale, mais ce qui fait que elle s'est effondrée totalement. Ils ne savaient plus rien produire. Des choses très simples, hein, des poignées de porte, des seringues pour les hôpitaux, des lances à incendie pour les pompiers. Ils ne savaient plus le faire parce que ils n'étaient plus mis en concurrence. Donc, les entreprises, si elles rataient, elles étaient subventionnées. Ce qui fait que la qualité n'a fait que de baisser, au point que bah, ils avaient carrément perdu le savoir-faire. Donc c'est gravissime pour un pays, gravissime. En plus de cela, donc le gouvernement kirchneriste, péroniste précédent, enfin les gouvernements successifs, ont inventé des taxes à l'exportation. Donc pour vraiment bien bien enfermer le pays, il n'y avait plus rien qui rentrait, et sortir des denrées, donc c'était surtout la production agricole ou minière, était taxée, puisque c'était le seul endroit où en fait l'État pouvait encore trouver de l'argent à prendre, puisque l'économie en interne était complètement appauvrie, et que de toutes les façons, il n'y avait pas de droit de douane, puisqu'il n'y avait rien qui rentrait. Donc ils se sont mis à taxer les exports, ce qui a été à nouveau catastrophique. Les producteurs ont été de moins en moins... menés à produire, en fait. Donc, s'ils augmentaient leur production, les taxes augmentaient d'autant plus, puisque à travers les années, ça n'a fait que d'augmenter. Donc, Milei, ce qu'il a fait, c'est que c'est son premier chantier, d'ailleurs, hein, d'un point de vue macroéconomique, ça a été de faire sauter toutes ces barrières. D'abord, de supprimer ces impôts. C'est les premiers impôts qui ont été supprimés, ces impôts à l'export. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, l'Argentine bat des records d'exportation dans tous les domaines. Et d'ouvrir le pays. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, les perdants, bah, c'est toutes les entreprises qui étaient maintenues artificiellement en vie sur le marché argentin parce que...
subventionnés, etc.
Ouais, producteur de poignées de porte, il n'était jamais mis en concurrence. Donc, maintenant, il y a des poignées américaines ou françaises ou allemandes qui arrivent. Bon, bah, elles sont de bien meilleure qualité au meilleur prix. Bah, forcément, lui, il va avoir un problème. Il a intérêt à se mettre à jour ou à mettre la clé sous la porte. Et puis d'autres qui vont pouvoir rentrer dans le jeu de la compétition mondiale et devenir les meilleurs. Et donc, on voit déjà des entreprises argentines qui arrivent à être très performantes, non seulement dans les secteurs hydrocarbures, on va dire économie primaire, mais aussi dans les nouvelles technologies. Il y a des entreprises argentines qui sont très bonnes en e-commerce, par exemple, et qui arrivent maintenant à concurrencer les meilleurs. Donc, c'est un assainissement très puissant pour l'économie, et de vouloir vivre dans une bulle.
Donc, il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane en Argentine.
Ah, il y en a encore. Hein. Attention,
en a encore.
Le chemin, on n'est pas passé.
Mais il veut à terme les effacer, les droits de douane, les mettre à zéro?
Ah, bah, effectivement, oui, c'est l'objectif. Une fois que les entreprises argentines seront compétitives, il n'y a aucune raison pour maintenir des droits de douane.
Donc, c'est un marché ouvert qu'ils souhaitent.
Et c'est un marché ouvert entre pays qui sont libres.
Entre pays libres.
Notamment, c'est sa grande idée, c'est entre démocratie libérale pour commercer, et puis ceux qui ont des systèmes plus dirigistes, ne pas commercer avec eux de la même façon.
D'accord, très bien.
Parce qu'ils trichent. Et oui, parce qu'ils subventionnent eux-mêmes leurs entreprises, et donc trichent.
Ce qui fait écho, d'ailleurs, au débat qu'on a actuellement sur le Mercosur, avec les poulets brésiliens, notamment.
Alors, du coup, quel est votre point de vue sur le Mercosur? C'est intéressant, ça? Puisqu'on parle aussi de Mercosur. Bah, si vous pouvez recontextualiser pour nos auditeurs le Mercosur et donner votre point de vue libéraux.
C'est un principe de libre-échange. Donc moi, je suis évidemment pour le libre-échange d'un point de vue théorique, parce que c'est ça qui améliore la situation pour tous. Néanmoins, quand vous avez un acteur en face qui ne joue pas le jeu de la même façon, qui subventionne de façon déguisée ou ouverte ou avec des dérogations, des choses peu transparentes, là du coup c'est plus du tout les mêmes principes qui sont à l'œuvre, et donc vous pouvez vous ouvrir, mais en fait si celui qui s'ouvre en fait il subventionne, il veut capter une rente et imposer un monopole de façon biaisée par des actions de l'État, ça marche pas, et donc on voit qu'on a
ça marche, La logique fonctionne des deux côtés. Quand on a un des acteurs qui est étouffé par des normes qui viennent de l'Union européenne et donc les agriculteurs européens qui ne peuvent pas travailler sur un pied d'égalité, eh ben oui, dans le principe, le libre-échange, c'est bien, mais quand tout le jeu est biaisé et qu'en fait, il n'y a plus de marché, c'est compliqué.
Mais aux États-Unis, Trump fait la même chose, non ? Il subventionne ses entreprises pour l'export, non ? C'est pas ça ?
Il fait surtout aussi avec ses droits de douane.
Oui, c'est ça.
Du coup, ils font du protectionnisme. Donc, c'est pour ça qu'il faut faut rester sur les principes, mais il faut aussi regarder la réalité.
Alors, la monnaie qui est un sujet très épineux et très complexe. Que fait-il, Milei, sur la monnaie ? On l'a accusé, peut-être à tort, vous allez me dire, d'être trop rattaché aux États-Unis et inféodé à Trump. On a parlé de la monnaie et de la dollarisation. Est-ce que vous pouvez me donner un point de vue, un petit point là-dessus ?
Oui, pour moi, c'est une fausse critique. Déjà, tous les États empruntent tout le temps. Il faut le savoir. En ce moment même, la France est en train d'emprunter. L'Argentine, elle, n'avait pas le droit d'accès aux marchés financiers internationaux pour des raisons non seulement de manque de confiance des marchés envers l'Argentine qui a fait faillite plein de fois, mais en plus des raisons purement contractuelles où avec en fait, des anciens prêts contractés auprès du FMI lui interdisent d'emprunter sur les marchés. Donc l'Argentine avait des échéances à payer en janvier dernier d'anciens prêts contractés par les gouvernements précédents et ne pouvait pas y faire face malgré l'excédent budgétaire dégagé par Milei. Donc il a dû faire ce qu'on appelle rouler sa dette, c'est-à-dire emprunter pour pouvoir remplacer une ancienne dette par une nouvelle, ce que font tous les pays du monde, en le faisant auprès des États-Unis puisqu'ils étaient prêts à lui accorder un prêt. Pourquoi ils étaient prêts ? Tout simplement parce qu'il y a des alignements économiques, stratégiques et idéologiques entre les États-Unis et l'Argentine. Et donc, c'est un peu comme une entreprise qui a assaini ses comptes et qui va voir son banquier, qui dit « Voilà, maintenant, je fais le bon élève. Regarde, je sors du bénéfice chaque mois. Est-ce que tu es prêt à me faire une petite rallonge ?» Oui, donc effectivement, les États-Unis ont prêté. Ils ont prêté en deux temps. Ils devaient prêter, en fait, il y avait un échange de devises pour un swap pour 20 milliards et un prêt pour 20 milliards supplémentaires. Finalement, Milei a pris que les premiers en disant qu'il n'avait pas besoin des seconds 20 milliards et il a déjà remboursé ces 20 milliards empruntés. Il a pu faire son roulement de la dette. Donc, en fait, il n'a créé aucune dette nouvelle. Il a assaini la situation. Il a simplement compté sur une bonne relation qu'il a avec son banquier américain. Donc, pour moi, c'est un vrai non-sujet. Et puis après, pour le côté de la monnaie, eh bien, il a aussi assaini énormément la situation. Avant, en fait, si vous voulez, vous aviez un taux de change officiel que personne ne pouvait utiliser. Et il y avait un taux de change parallèle qu'ils appelaient le « blue », qui était le taux de la rue, quoi. Il y avait une brèche qui est arrivée quasiment jusqu'à 100% entre les deux taux de change. Donc, c'était un bazar pas possible. En tant que touriste étranger qui arrivait en Argentine, je vous le dis, moi, j'ai un hôtel en Argentine, c'était compliqué d'expliquer aux gens ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, il y a un taux de change officiel. Tout le monde peut aller échanger ses dollars librement, ses pesos librement. On peut avoir un compte en dollars en Argentine. Tout est normalisé. Donc, le taux du pesos, évidemment, a beaucoup changé, mais au moins, c'est le vrai taux.
D'accord.
Ça participe beaucoup à la normalisation
du pays. C'est un taux fidèle au marché.
Oui.
Alors, il nous reste 3 minutes avant de conclure. Et ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez, chacun de vous, en dire plus sur votre activité en relation avec notre thématique et sur votre agenda en relation aussi avec la thématique libérale en France, ce que vous faites, ce que vous attendez éventuellement de nos auditeurs, s'ils peuvent faire quelque chose, comment vous communiquez et effectivement quel est votre agenda. Michael, vous voulez commencer ?
Oui, très
Parce
bien.
Parce que donc... vous avez une minute.
Eh ben, très bien, donc en une minute, n'hésitez pas du coup pour en savoir plus à acheter le livre,
ouais,
évidemment,
alors, je vais le redire,
que vous avez la gentillesse de promouvoir. Pourquoi ? Parce que ça a tous les éléments pour comprendre la révolution qui est en cours, qui est, je trouve, à la fois fascinante et qui est le meilleur exemple de réussite économique d'un pays depuis des décennies. C'est la première fois aussi qu'on peut rappeler des principes économiques où à la fois Milei est, je pense, un économiste bien supérieur à de nombreux qui sont étudiés et qui, en même temps, est quelqu'un qui a transformé un pays. Donc, c'est rare d'être à la fois et économiste et d'avoir une transformation positive d'un pays à cette échelle. Donc, je pense que c'est le numéro un de l'histoire là-dessus. Deuxièmement, donc, pour populariser et pour faire exister l'espace d'une thérapie de choc, d'un renouveau, d'un redressement de notre pays. Du coup, j'organise des Nuits de la Liberté. Donc, on rassemble des économistes, des entrepreneurs, des personnes engagées dans un théâtre. Donc, on l'a fait deux fois au théâtre Héberto.
Et des particuliers peuvent venir ?
Les particuliers peuvent venir. C'est comme un théâtre. Donc
et vous communiquez comment ?
On communique sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Donc, Michael Miguer. Et puis aussi, on a des comptes. Ça s'appelle donc les comptes La Nuit de la Liberté ou Nuit de la Liberté sur Instagram, sur X, Twitter, mon LinkedIn aussi. Je communique beaucoup.
Très bien.
Voilà. Et puis, j'ai fait un sondage donc, avec un partenaire qui s'appelle Les Actifs Anonymes, justement, pour montrer qu'il existait et pour tester l'espace libéral, dit radical mais de bon sens, qui existe. Et pour terminer là-dessus, on a fait la dernière question de notre sondage, qui était de dire, seriez-vous prêt à voter lors de la prochaine élection présidentielle pour un candidat qui proposerait une thérapie de choc, c'est-à-dire déficit zéro, baisse des dépenses et baisse des impôts pour relancer la croissance. Et à ma grande surprise, le oui était à 68%, dont par exemple 81% pour les sympathisants du RN. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens comprennent bien plus l'économie que ne le font les responsables politiques, mais c'est en se mobilisant toutes et tous qu'on arrivera à faire bouger les lignes.
Merci. En 30 secondes, Romain, s'il vous plaît, 40 secondes.
Merci pour l'invitation et effectivement, la même chose, hein. Suivez-nous sur les réseaux, sur X, sur Facebook, sur Insta, les milléistes français, on continuera à défendre.
Donc le mouvement les milléistes français, je dis bien aux auditeurs, les milléistes français, qui n'est pas un parti, mais un mouvement.
Non.
Allez-y Romain, pardon.
On continuera à défendre toutes les idées de la liberté et à tous ceux qui veulent s'inscrire dans cette grande bataille culturelle. Également, j'ai d'autres projets avec le groupe TBSO d'Éric Larchevêque pour défendre les idées de la liberté. Vous en saurez plus bientôt.
Donc, et les Nuits de la Liberté, comme indiqué tout à l'heure. Merci monsieur, merci messieurs, merci pour votre présence. Je rappelle à nos auditeurs, donc la révolution Milley, l'avènement d'un nouveau libéralisme de Michael Miguer sur Valeur Ajoutée Édition. Je parle également du livre « L'ère Milley » de Philippe Bagus, qui est aussi excellent. Achetez-les, parce que là, vous allez en avoir pour votre argent, puisqu'on parlait tout à l'heure de pédagogie et de valeur ajoutée. Et nous nous retrouvons dans un mois pour une prochaine émission. Vive la France!
Venez d'entendre Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 1er mai 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.